Merci Marie et la compagnie des auteurs. C'est Anne-Vanessa Prévost, Corinne Amard, Didier Pinault et Eva Lesseau à la réalisation, Laurence Millet à la console, Bruno Gagnère-Fontanille.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. C'est le dernier épisode de notre série consacrée toute la semaine à Colette. Colette, dont nous avons raconté la vie lundi dernier, ou plutôt les vies, celle d'artisan romancière dans les ateliers de son premier mari, Henri Gauthier-Villard, celle de danseuse et de mime au music-hall, alors qu'elle vivait avec Mathilde de Morny, celle de l'amoureuse qui se rend sur le front en 1914 pour y rejoindre son deuxième mari, Henri de Jouvenel, celle enfin de la créatrice d'une ligne de cosmétiques avec son dernier mari, Maurice Goudequet. Gérard Bonal nous a raconté tout cela. Mardi dernier, c'est Frédéric Magé qui nous a parlé de Colette journaliste, mais aussi de la déménageuse frénétique qu'elle fut et de son amour pour les bêtes. Et puis hier, Jacques Dupont a analysé pour nous ce qu'il appelle le matérialisme de Colette ainsi que son côté moraliste. Et nous voilà aujourd'hui. Aujourd'hui, où j'ai le plaisir de recevoir rien moins que Julia Kristeva, grande admiratrice de Colette, à qui elle a consacré l'un des tomes de sa trilogie intitulée Le génie féminin. C'était au tournant des années 2000. Et c'est donc de la femme, Colette, de la jouissance, mais aussi de la douleur, dont nous allons nous entretenir aujourd'hui. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs. Bonjour Julia Kristeva.
Bonjour.
Vous avez publié il y a quelques semaines un livre de souvenirs, vous dites même vous, de mémoire, intitulé « Je me voyage ». Ce sont des entretiens avec Samuel Dogg et c'est publié aux éditions Fayard. Avant de commencer cette émission, j'aimerais savoir ce que signifie ce titre « Je me voyage ».
C'est un signe un peu espiègle, j'espère, puisqu'on parle de Colette, commençons par cela, pour désigner ma singularité. On ne dit pas en français « je me voyage », « je me baigne », « je me nourris », mais « je me voyage », ça fait paradoxal. Je voulais simplement dire que je traverse des frontières des langues, des pays, des disciplines, mais aussi mes propres frontières. Et ce voyage à l'intérieur de moi me semble indispensable déjà pour vivre, mais aussi dans notre monde globalisé où il y a beaucoup de délocalisation, on vous vire, on vous déplace, mais très peu de gens se voyagent, je pense, au sens justement intérieur auquel nous convie la lecture. Et Colette est une de ces personnes, vous avez déjà évoqué différents aspects de son personnage, qui s'est beaucoup voyagé à travers ses différentes facettes. Donc c'est une manière aussi, peut-être en évoquant mon livre, de m'inviter à voyager avec Colette et jusqu'à Colette.
D'ailleurs, dans le fanal bleu de Colette, elle fait l'éloge de l'avion dont la fonction magique est de supprimer les parcours. Donc elle se voyageait aussi par l'esprit du voyage. Elle ne faisait pas que se voyager intérieurement.
Bien sûr, elle a beaucoup bougé. Elle a voyagé dans différents pays, en France bien sûr, mais elle est allée au Maroc, elle est allée ailleurs. Elle connaît beaucoup de ce nomadisme de la modernité, contrairement d'ailleurs à beaucoup de personnes de cette époque qui étaient plus enracinées qu'elle. Et on ne s'attend pas vraiment à cela de la part de la Bourgogne. bourguignonne qui a gardé son accent et ses racines. Et c'est la française de souche, n'est-ce pas? Et moi, ce qui m'a fascinée en elle, dès mon enfance, parce que j'ai appris le français dans Victor Hugo et Colette, c'est cette espèce de liberté psychique, sexuelle, mentale, qui est une sorte d'avion, si vous voulez garder votre image de l'avion, mais qui est un avion sensoriel qui se déplace de la bouche au toucher, à l'ouïe, à l'odorat, et c'est cette espèce d'ubiquité sensorielle qui m'a frappée. Je vous ai apporté d'ailleurs mon livre avec plein de post-it, mais on ne pourra pas les lire, c'est parce que je voulais qu'on se voyage à travers ces textes à elle. Mais je crois que c'est peine perdue, parce que vous voudriez qu'on discute, et on va le faire.
On va commencer par discuter, oui.
Voilà.
Vous dites que c'est un plaisir immédiat, et on parlera beaucoup de plaisir, je pense, au cours de cette émission. D'où vient le plaisir pour vous de la lecture de Colette? Est-ce qu'il est le même d'ailleurs aujourd'hui que celui que vous ressentiez quand vous avez appris le français en lisant, vous le disiez, Colette?
Moi, j'ai appris le français dans une langue qui m'a paru d'abord d'une simplicité extraordinaire, parce qu'elle parle des muguets, des roses, des enfants même. On connaît peu Colette maman, mais ça existe également. Et en même temps, ces mots tout simples sont traités de telle manière qu'on entend la sonorité. Et tout de suite, on entend aussi leur possibilité de toucher les autres sens.
Par exemple,
donc les mots sont des métamorphoses. Je vous donne un exemple. Rose, noir, confiture, d'odeur. C'est très simple. Il y a la confiture, il y a la rose, il y a le noir. Mais tout ça ensemble touche quelque chose d'indicible et d'incandescent. Et c'est une langue qui, du coup, devenait pour moi, ce français étranger, très incarné, très proche. C'est une manière de se baigner dans le français. Elle dit d'ailleurs elle-même qu'elle s'est baignée dans Balzac et dans Proust. Moi, j'ai essayé de me baigner dans le français. Alors après, évidemment, je suis devenue linguiste, psychanalyste, philosophe, et un français plus abstrait m'a accaparé. Mais je reviens beaucoup à cela. Et donc ça, c'est le côté langue. Mais aussi, ce qui m'a fascinée dès mon jeune âge, c'est l'histoire, cette femme. Et je garde cette phrase que j'aimerais bien citer en commençant notre débat. Femelle j'étais et femelle je me retrouve pour en souffrir et pour en jouir. Que faire? Écrire brièvement, car leur presse est mentir. Alors c'est tout, Colette.
C'est une très belle introduction au thème qui va nous intéresser aujourd'hui et qui est la femme chez Colette. Je vous propose, pour commencer, d'écouter Régine Deforge à ce sujet.
L'importance de Colette dans la littérature du XXe siècle, et je crois qu'on peut pas la remettre en cause. Je faisais allusion l'autre jour au mot méchant de Marguerite Duras, disant que la littérature de Colette, c'était de l'eau de bidet, mais enfin, de l'eau de bidet comme ça, on voudrait bien en lire tous les jours. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Je crois qu'elle a su parler mieux que quiconque, justement, de la femme, de ce moment où la femme va perdre cette féminité triomphante, enfin, qui était tout au moins dite comme telle au début du siècle ou jusqu'à la dernière guerre. C'est-à-dire qu'au moment où la femme vieillit, les pages du vieillissement de Léa, de l'acceptation de la vieillesse, sont les pages les plus émouvantes et les plus bouleversantes qu'on puisse lire là-dessus, enfin, sur la perte de la beauté, sur la vieillesse qui arrive, cet abandon, cette abnégation. En ça, elle est quand même un écrivain classique de l'univers féminin, car la femme est toujours en train d'abandonner quelque chose, ou aux hommes, ou à la vie. Léa est un exemple. Pour le bonheur de chérie, elle accepte d'être vieille et laide.
Régine Deforge, parlant de cet écrivain classique de l'univers féminin qu'est Colette. J'imagine que vous êtes d'accord avec cela. Mais il faut peut-être dire d'emblée, Julia Kristeva, que Colette n'est pas une féministe et qu'elle est même loin d'être une féministe.
Oui, j'étais sensible à ce que dit Régine Deforge, que j'ai bien connue, et je ne sais pas à quel moment elle a dit cela. Peut-être dans sa vie, elle était attirée par
C'est dans les années 70.
Oui, mais il y a en effet chez Colette une profonde tristesse, surtout en arrivant à Paris, à travers les difficultés que lui a posé le couple avec Willy, les trahisons et les blessures. Elle a dit des choses très profondes sur la mélancolie féminine. Par exemple, qu'il y a toujours dans la vie d'une femme le moment où mourir est tout juste aussi normal et séduisant que vivre. Mais je pense que ce n'est pas ça, Colette. Et je n'aimerais pas qu'on entende chez elle simplement le lamento et ce qu'on a dit autour de la femme vieillissante. C'est juste, c'est vrai. Mais ce qui la rend très différente de toutes les féministes et de celles qui ne le sont pas, mais qui appuient sur le malheur féminin. Cause importante, les femmes battues, la détresse, c'est toujours sur le devant de la scène. Colette a ceci de particulier qu'elle a su traverser cela. Et quand je l'ai inscrite dans ma série du génie féminin, c'est pour une raison simple. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le combat des femmes? On prend l'exemple de Hannah Arendt et on se positionne dans le politique. On prend l'exemple de Melanie Klein et on essaye de trouver la spécificité des femmes.
Donc ce sont les deux premiers tomes de votre trilogie.
Voilà. Melanie Klein s'est occupée de la psychanalyse des enfants. Donc les femmes peuvent trouver des lieux de connaissance qui sont restés plus ou moins occultes. Mais Colette est à mon sens la seule, maintenant peut-être qu'il y en a d'autres, mais à l'époque de tout le XXe siècle, qui a traversé le malheur. Et c'est quelque chose qui me paraît absolument nouveau, parce qu'elle affirme le droit et la capacité du bonheur féminin. Et c'est cette femme qui chante les roses, on a dit tout à l'heure, les animaux, le coucher de soleil, sa mère, y compris son père amputé. Et elle trouve une espèce de vivacité. Une autre citation
d'elle. Mais en quoi est-ce particulièrement féminin? Qu'est-ce que cela a de spécifiquement féminin?
Ça, spécifiquement féminin, parce que les femmes sont amenées par le métier de soins qu'elles font en tant que maman et par les épreuves dont on vient de parler et qui conduit souvent à être du côté des esclaves ou des soumis, à se battre contre cela et à survivre. Et chez Colette, il y a cette phrase: l'amour, l'affaire la plus banale de l'existence, s'éloigne de moi. Sorti de là, tout est gai, varié, nombreux. Alors c'est magnifique. Ou une autre, la mort est une banale défaite, renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces. C'est cette vitalité qui consiste à dépasser les écueils et à recommencer. On le voit dans ces mariages, dans le passage de la maternité à une sorte d'amour incestuel avec Bertrand de Jouvenel, son homosexualité. Elle ne s'arrête pas de vivre au-delà des limites.
Peut-être pour conclure sur cet aspect politique, parce que c'est vrai que quand on pense aux femmes écrivains, tout de suite, la notion de féminisme apparaît. Et là, je pense qu'il faut quand même préciser le rapport de Colette, qui était presque un antiféminisme au fond. Comment vous expliquez ça, cet anti-militantisme chez Colette?
Moi, je pense que beaucoup de femmes créatrices, c'est le cas aussi de Hannah Arendt dans la trilogie dont vous avez la gentillesse de nous en parler aujourd'hui, ne se sont pas identifiées avec les mouvements de masse, avec le mouvement de masse qui est le féminisme, parce que elles ont développé une liberté singulière. Et moi, issue d'un pays totalitaire, je suis de ceux qui pensent que la liberté se conjugue au singulier. Et je les comprends effrayées devant la chape de plomb qu'une communauté militante peut poser. Je crois que c'est contre cela que s'insurge Colette. Ceci dit, elle est féministe non seulement par sa créativité qui reconnaît la mélancolie et la dépasse, mais aussi par sa lutte politique, si j'ose dire, dans le milieu du journalisme et des écrivains. Elle va vouloir gagner son pain individuellement et d'être une femme économiquement libre, se libérer de l'empreinte du mari, être journaliste pendant les guerres, une des premières affronter le milieu masculin dans l'édition, devenir membre du jury Goncourt. Donc s'affirmer, mais en tant que féminité singulière et par-delà toute banalité. Voilà, c'est un peu ça le message. Et Simone de Beauvoir n'a pas manqué d'être impressionnée par elle. Il y a des pages très très significatives dans Le Deuxième Sexe où elle est fascinée par la liberté de Colette, cette émancipation financière des femmes et l'autonomie de la femme qui écrit et qui ne se soumet pas aux codes environnants. Ceci dit, Simone de Beauvoir était beaucoup plus cruelle à son égard dans sa correspondance avec Algren. Elle voyait la femme aigrie, etc. Mais c'est vengeance entre femmes. Ceci dit, donc, elle reste une icône du féminisme au sens large du terme. Pour clore ce portrait féministe et au-delà, sa portée politique, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on parle du politique, mais on voit combien le domaine du politique est devenu saturé, banalisé, et il y a ce qu'on appelle un délitement du politique. On n'y croit pas. On voit que ça n'a plus de pouvoir, ou le pouvoir n'est pas là. Et pourtant, des gestes individuels, de gestes anarchistes et libertaires, comme l'écriture de Colette, ça nous parle, et on se dit, là, il y a un souffle de liberté. Et regardez ce que dit sa mère, parce que les mères ne sont pas toujours gentilles avec les filles et vice-versa d'ailleurs. Mais voilà ce qu'elle écrit. « Tu es plutôt une femme comme il faut », dit Sido à sa fille, c'est sa dernière lettre, « mais d'un genre particulier. » Le genre particulier. « Tu as le talent d'écrire et d'intéresser le lecteur avec des choses, je ne puis dire des riens, car au fond ce ne sont pas des riens, loin de là. Et je dois même reconnaître que tu avances de deux siècles à de nombreux points de vue. » C'est ça, là. La liberté, le droit des femmes d'être singulières, le droit de vivre, de chercher des jouissances nouvelles et de le donner à tous. On est à un siècle, mais bon, il y en a encore.
Alors vous dites, Julia Kristeva, que si le XXe siècle n'est pas seulement de sinistre mémoire, puisque le XXe siècle, c'est peut-être d'abord et avant tout la Shoah, eh bien il le doit au plaisir et à l'impudeur de femmes libres. Et ces femmes libres, eh bien c'est par exemple Colette. Colette est une chef de file finalement de ces femmes libres. Vous dites aussi que ce fut le privilège de Colette de savoir écrire avec son corps, avec sa chair et avec la chair du monde. Oui. Et je pense que c'est peut-être important que vous reveniez sur ce que signifie pour vous cette notion de chair du monde chez Colette. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Elle a vécu quelque chose de magnifique en s'arrachant à sa Bourgogne natale. Et c'est un exemple encore politiquement intéressant de ce que la culture française, y compris la plus enracinée, qu'on regarde aujourd'hui avec beaucoup de circonspection et d'effroi, eh bien, cette culture-là peut porter une grande richesse de sensorialité et de liberté si on sait s'y prendre avec distance et ironie. Cette bourguignonne qui était entourée d'une mère aimante, d'un jardin, d'un père estropié de la guerre, mais un grand lyrique, elle arrive à Paris avec son mari, qui est un monsieur un peu badin et polygame, et elle vit énormément de déboires et de tristesse. Et elle arrive à se libérer de cela, en écrivant d'abord les Claudine que vous avez évoquées sans doute et qui a été signée par son mari. Elle est donc une sorte de nègre, si je puis dire, dans son atelier. Mais néanmoins, c'est dans le langage qu'elle trouve le moyen de se libérer. Alors, ça se passe à un moment très précis. Elle fait une maladie psychosomatique quand elle découvre les différentes infidélités de Willy. Et avant de trouver, et tout en trouvant la possibilité de faire face en devenant la maîtresse de ses maîtresses, ou homosexuelle, ou mère incestuelle de Bertrand, tout en menant ce côté érotique de sa vie, elle est entourée d'écrivains, parmi lesquels Max Schwab, qui lui donne à lire un texte de Oscar Wilde, La Rose et le Rossignol, et elle écrit un texte, Les Vrilles de la Vigne, où elle se montre comme un rossignol qui se laisse empoisonner par une vrille qui le suffoque, qui l'étrangle, etc. Puis il se dit, bah, tiens, j'ai une voix. Il commence à s'enguirlander par cette voix et à se libérer par la voix. Donc, elle a compris que c'est par le langage, mais à condition qu'il reste près du poison, mais aussi près de ses propres capacités, qu'elle va pouvoir trouver une langue qui est proche de la nature.
Donc la chair
du monde.
La chair du monde, c'est les bêtes, les plantes, les êtres qui sont, dites-vous, des éclats de liberté. Je vous propose justement d'écouter Colette lire un extrait de son texte « En pays connu » dans lequel on entend, je crois, tout un rapport au monde de l'écrivain et notamment à travers son rapport avec les animaux.
Une seule fois dans ma vie, j'ai sollicité un poste, on me l'a refusé. J'avais demandé à diriger le jardin d'acclimatation, alors que délaissé, il n'était que box pourrissant, verrière défoncée, chaume démantelée. Il abritait quelques bêtes encore, une dernière lionne magnifique, des rongeurs rongés, des cervidés peut-être, des oiseaux, je ne garantis rien. Ma demande n'eut pas le temps de prendre la voie hiérarchique. On m'avertit qu'elle n'aurait pas de suite. Je ne visais follement qu'à assurer aux bêtes captives un sort meilleur et je ne réclamais point d'honoraire. Depuis, le zoo de Vincennes a fait mieux que je n'aurais jamais pu faire et tout est bien ainsi, en admettant que tout puisse être bien. Quand il s'agit de rendre captives des créatures libres, sauvages, et de prolonger leur captivité jusqu'à la mort, dans un pays sous un climat qui ne sont pas les leurs, à qui est né pourvu de pattes pour courir, d'ailes pour voler, d'armes pour combattre, de sexe pour aimer et porter une descendance. Le meilleur de ce que nous pouvons offrir semble une dérision.
Vous écoutez la compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de Colette avec Julia Kristeva. Cette chair du monde, Julia Kristeva, c'est cela, cet amour de la nature, aimer caresser les animaux, aimer regarder les belles choses que la nature nous offre. C'est une jouissance de tous les sens.
Tout à fait. On a beaucoup parlé de cette identification qu'elle a pu accomplir dans son moment de tristesse et de mélancolie. Personne ne m'aime, il n'y a que les plantes et les bêtes. Cette identification avec la nature. Les humains, c'est les trahisons, les jalousies, les blessures. Il nous reste les animaux et les bêtes.
Il n'y a pas un côté un peu misanthrope là-dedans? Voilà.
Non, mais je pense que ce n'est pas exactement ce qu'elle a vécu. Elle a vécu une espèce de grave mélancolie, une sorte de dépersonnalisation. Il n'y a pas de moi, le moi est ridicule. Je n'aime plus d'ailleurs, je vais écrire autre chose que l'amour. Et à ce moment-là, elle utilise cette espèce d'anthropomorphisation des bêtes et des plantes pour parler de sentiments extrêmement subtils. Quelque chose qu'on peut appeler une sorte de anonymat de moi. On est dépossédé de son moi, de son narcissisme, de ses désirs mondains, etc. Et on parle des choses les plus fines, des sensations les plus archaïques, on peut dire, qui révèlent en nous notre généalogie du côté des bêtes et jusqu'aux plantes. Et c'est ça qui est fascinant chez elle. Voyez.
Mais c'est vrai qu'elle n'était pas mondaine, par exemple. Elle n'aimait pas la mondanité.
Elle était mondaine aussi et n'a pas du
tout. Par obligation, non ?
Oui, mais en même temps, c'était quelqu'un de très intelligent et rusé. Il a utilisé toute la Belle Époque. Il a utilisé les Goncourt pour se faire une place sur le soleil. La paysanne a triomphé sur Paris. Non, il faut pas négliger ce côté-là. Non, mais elle est baudelairienne. Vous vous souvenez de ce texte de Baudelaire dans le Paradis artificiel où on parle des achichams. On lui regarde un arbre et le poète médiocre se compare à l'arbre. Mais le vrai poète, il devient l'arbre. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une comparaison, c'est une métamorphose. Il se vit comme l'arbre. Donc, c'est pas, elle ne projette pas sa mondanité sur les plantes et les bêtes. Elle s'identifie, elle est là.
Elle, non, mais elle aurait pu fuir un petit peu à travers les plantes mais et les bêtes le reste des humains, c'est ça.
Le côté mondain, le côté artificiel, le côté méchant, etc. Mais elle trouve chez les bêtes aussi bien des monstres. Mais je vais vous lire une chose sur les
bêtes. Et ça ne la dérange pas d'ailleurs.
Ça ne le dérange pas parce que tout en entrant dans cette complicité tendre et fine des bêtes et des plantes, j'aimerais vous donner une lecture d'un texte sur les muguets, pour vous, comment elle devient muguet. Et en même temps, elle a besoin des monstres. Et la monstruosité des bêtes lui parle aussi.
Oui, elle retrouve une certaine cruauté qui est peut-être sa cruauté aussi.
Mais oui, mais c'est une cruauté qu'elle préfère. Et elle va préférer les criminels aux mondains. Parce que elle est allée 4 fois au procès de Landru. Elle lui a donné, elle a dédicacé un livre. Et elle cherche le monstrueux. Elle pense parfois que le criminel est plus intéressant que le juge qui trouve des arguments délirants. Donc, tout ce qui est artificielle et convenue, la dégoûte et la bête, elle va la célébrer jusque dans le... Il y a une phrase de Cocteau qui est très juste à cet égard. Si Madame Colette n'était pas un monstre, elle ne serait rien. Donc, elle n'évite pas la monstruosité. Mais je voudrais insister sur ce côté infusion du soi dans le naturel. Regardez par exemple comment elle décrit le muguet. « Je tâte timidement ». J'invente un rapport indicible entre la goutte laiteuse des muguets, le pleur de pluie tiède, la bulle cristalline qui monte du crapaud. Vous voyez, c'est cette espèce de dissémination où il n'y a pas de Colette, il n'y a pas de Madame Willy. C'est une sensorialité qui se diffuse du crapaud à la pluie et à la goutte d'eau. Et c'est le muguet.
Sensorialité.
Et c'est aussi la chair du monde.
La chair du monde.
Mais qui trouve ces mots, qui ne sont pas des métaphores, elle devient le muguet.
Et aussi la sensualité, comme dans Les vrilles de la vigne.
Il n'y a dans notre maison qu'un lit, trop large pour toi, un peu étroit pour nous deux. Il est chaste. Tout blanc, tout nu. Aucune draperie ne voile en plein jour son honnête candeur. Ceux qui viennent nous voir le regardent tranquillement et ne détournent pas les yeux d'un air complice. Car il est marqué au milieu d'un seul vallon moelleux, comme le lit d'une jeune fille qui dort seule. Ils ne savent pas ce qui entre ici, que chaque nuit le poids de nos deux corps joints creuse un peu plus sous son linceul voluptueux, ce vallon pas plus large qu'une tombe. Oh, notre lit tout nu. Une lampe éclatante penchée sur lui le dévêt encore. Nous n'y cherchons pas au crépuscule l'ombre savante d'un gris d'araignée que filtre un dé de dentelle, ni la rose lumière d'une veilleuse couleur de coquillage. Astre sans aube et sans déclin, notre lit ne cesse de flamboyer que pour s'enfoncer dans une nuit profonde et veloutée.
Extrait des Vrilles de la vigne, lu par Viviane Théophilides. Comment entendez-vous cet extrait, Julia Kristeva?
Je pense que c'est un exemple parmi mille d'autres concernant cette extraordinaire sensualité qui passe à la nature, qui passe à travers tous ses sens au cosmos, mais dont la grande magicienne est la maison gérée par sa mère. Il n'y a pas Colette sans Sidot.
C'est la psychanalyste qui parle.
Non, c'est elle qui parle parce que, vous savez, les Claudines n'ont pas de mère. Elle a passé 20 ans, 30 ans de son œuvre sans parler de sa mère. Et c'est seulement dans la maison de Claudine, en 22, qu'elle commence à parler de sa mère et après il y aura Sido. Mais je voudrais donner juste une description de ce monde floral qui est ombiliqué, si j'ose dire, autour de sa mère. Parce que ça chante la rose et ça chante le bébé dans un même paquet de phrases autour de la mère. Elle lui donna, elle c'est la mère, une rose cuisse de nymphe émue. C'est des mots de plante qu'elle trouve, qu'elle invente. Elle lui donna une rose cuisse de mère émue qu'il accepta, le bébé, avec emportement, qu'il apporta à sa bouche et suça. Puis il pétrit la fleur dans ses puissantes petites mains, lui arracha les pétales, débordés et sanguins à l'image de ses propres lèvres. La mère qui donne la fleur du bébé, qui la mange, les lèvres de la rose deviennent les lèvres du bébé, elle est dans cet univers qui passe de l'humain au floral et qui tourne autour de cette perception intense, jalouse et envieuse, mais aussi cannibalisée de la mère.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Alors Julia Kristeva, comme chaque jour, nous faisons une pause dans cette émission. Avant de revenir bien sûr à Colette, je vous présente Grégoire Le Ménager de l'Obs, car nous avons le plaisir de recevoir chaque jeudi dans cette émission un représentant des pages culture de cet hebdomadaire bien connu, qui vient nous parler de son sommaire. Et donc au sommaire de l'Obs, il y a entre autres, on en parle beaucoup avec la rentrée littéraire de janvier, le dernier livre de Daniel Pennac.
Ben oui, on a fait un grand papier, enfin c'est moi qui m'y suis collé là, sur Daniel Pennac, parce que c'est vrai qu'il revient avec un livre qui s'appelle Le Camalocène.
Il revient, c'est le cas de le dire, parce qu'il revient à ses premières amours.
Il revient à ses premières amours, parce que Pennac a eu un succès phénoménal au milieu des années 80 avec, vous vous souvenez, avec La Fée Carabine, avec Au Bonheur des Ogres, La Petite Marchande de Prose. Ensuite, donc ça c'était au milieu des années 80 et ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. Il a prolongé ça jusqu'à la fin des années 90 de façon plus sporadique. Et puis après, Les Malocènes c'était terminé. Et là, il ressuscite toute sa tribu. À commencer par Benjamin Malocène.
Ils ont tous vieilli, ils ont tous grandi.
Ils ont tous vieilli, ils ont tous grandi. Donc Benjamin Malocène est un monsieur assez âgé qui a des souvenirs d'antiquaire, qui se sent particulièrement dépassé. Il a toujours été un peu dépassé par les événements, mais là, ce bouc émissaire professionnel est vraiment complètement dépassé. Il vit avec un chien épileptique, comme dans les autres épisodes, mais qui s'appelle Julius, comme les autres, mais qui est le chien de la troisième génération, nous précise le romancier. Et voilà. Et donc tout ça est exactement comme les Malocènes des débuts, c'est-à-dire que c'est un joyeux bordel narratif. Ça part dans un peu tous les sens. On est un peu perdu au début. On se souvient plus très bien qui est le fils de qui parce que cette famille est complètement explosée. Et puis petit à petit, les fils s'assemblent. Il y a plusieurs intrigues qui courent et c'est très marrant.
Alors ça se passe dans le Vercors cette fois-ci. On n'est plus à Belleville.
Ça se passe en grande partie dans le Vercors. Et en fait, j'ai découvert à cette occasion que Pennac était très très attaché au Vercors et que déjà les premiers Malocènes qui se passait à Belleville, dans le brouhaha urbain de Belleville, avait en fait été écrit dans le silence du Vercors, où il se retire chaque fois qu'il peut, j'ai l'impression. Enfin, il y passe beaucoup de temps, il s'est même acheté une maison là-bas il y a quelques années, et il est très très attaché au Vercors. Et au début, donc Benjamin Malocène est dans le Vercors, où il est chargé par son éditrice de la surveillance et de la protection d'un auteur de vérité vraie. Parce que c'est pas un exercice de style pur ce roman-là. Il y a quand même pas mal de choses, et notamment il y a toute une réflexion qui est assez marrante et assez approfondie quand même sur ce qu'on appelle la tendance à l'autofiction et ce que lui appelle la vérité vraie, la VV, et qui garantit d'excellentes ventes dans les maisons d'édition, mais qui pose aussi un problème majeur, c'est que l'auteur en question est menacé de représailles par évidemment ses proches sur lesquels il a écrit plein de saloperies. Et voilà, donc c'est très très enlevé, très joyeux, puis il y a une dimension politique et sociale aussi.
Alors justement, et on terminera par ça, on retrouve la veine libertaire de Daniel Pennac dans ce livre, et vous lui avez demandé ce qu'il pensait de son image jugée parfois trop politiquement correcte.
Oui. Bon, alors lui dit qu'il s'en fout complètement d'être jugé trop politiquement correct. Et puis dans un deuxième temps, quand même, il revient un peu là-dessus et il dit des choses assez intéressantes, me semble-t-il. C'est que il observe à quel point les valeurs plutôt libertaires qu'il défendait dans les valeurs progressistes et libertaires qu'il défendait dans les années 80 à travers ses livres, qui effectivement étaient plutôt dominantes à l'époque, le sont quand même nettement moins aujourd'hui. Il constate à quel point c'est devenu une insulte d'être traité de bobo ou d'être considéré comme étant de gauche. Et lui revendique haut et fort le fait d'être bobo dans l'entretien qu'il m'a accordé, de façon assez subtile. Et puis ça répond vraiment à un engagement dans le livre. Enfin, le livre, il y a vraiment quelque chose là-dessus, sur la dégradation de l'impératif de solidarité en un retour à la charité, qui est quelque chose de beaucoup plus aléatoire et subjectif.
Voilà, tout ça à découvrir dans les pages.
Lisez le journal.
Du Nouvel Observateur. C'est un très long article. Merci beaucoup, Grégoire Leménager. À bientôt. Christeva est l'invitée de la Compagnie des auteurs aujourd'hui. Nous terminons avec elle une série d'émissions consacrées à Colette.
L'amour, c'est son nom, l'amour, mais l'amour, c'est l'amour.
Bon, alors en ce qui concerne la vie homosexuelle, enfin les relations homosexuelles de Colette, elles existent, il y a des lettres, il y a cette tendresse qu'elle manifestait vis-à-vis des femmes. Je crois qu'elle aimait les femmes parce que elle a eu peur de Willy, elle le dit à un certain moment. Willy lui a révélé non seulement qu'elle était un écrivain, mais elle lui a révélé le plaisir. Et je crois que quand elle a rencontré le plaisir dans les bras de Willy, ça a été pour elle un choc immense sur lequel elle va vivre pendant un certain nombre d'années, ce qui va lui permettre d'accepter tout ce qu'elle va accepter de Willy, y compris des femmes, y compris des ménages à trois. On l'a vu, elle l'a écrit, dans mes apprentissages, elle va avoir des accents de révolte, de colère envers Willy, puis tout d'un coup, elle avouera que c'est l'homme qu'elle a aimé, que c'est l'homme qu'elle aime, finalement. Mais je pense que Colette va y prendre une certaine... un sentiment de sécurité dans les amours féminines, puis peut-être un sentiment de sa puissance, car dans ses amours féminines, je pense que Michel Sartre sera de mon avis, elle a une attitude de mec, nous dirions maintenant. La manière dont elle parle de René Vivien est une manière brutale. D'abord, elle n'éprouve aucune sympathie pour René Vivien. Elle la regarde avec une espèce de méfiance. Et son comportement est celui d'une conquérante.
C'est l'amour, c'est son nom, l'amour, mais l'amour, c'est l'amour.
Régine Deforge, de nouveau au micro du Berguin en 1978. Vous êtes d'accord, Julia Kristeva, avec cette idée, finalement, que l'amour des femmes pour Colette serait venu de la peur de ce plaisir que lui a fait découvrir Willy?
Écoutez, moi j'ai une vision de Colette qui est peut-être moins misérabiliste. Je pense que quelqu'un, c'est quelqu'un qui a réussi à traverser sa douleur et sa peur. Je reprends ce que je disais tout à l'heure en donnant cette piste qu'elle a choisie, qui est celle de la nature, les bêtes, les plantes et le langage. Mais elle a trouvé une autre aussi, et les deux sont parallèles, qui est d'aller cueillir le plaisir.
Et où qu'il se trouve, alors, du côté des femmes comme du côté des hommes.
Pas d'interdit. Alors, je me voyage, reprenant le titre de mon dernier livre, elle se voyage à travers les plaisirs. Tu me laisses tomber, tu as des maîtresses, moi aussi. Et les mêmes. Et qu'est-ce qui la prédispose à cela? Parce qu'elle ne se force pas. Il y a ce moment de la dépression dont on a parlé, elle était aidée par les uns et les autres, sa mère est arrivée, donc elle était épaulée.
Pour vous, c'est vraiment fondateur, la dépression avec cette idée de la jouissance féminine,
la
c'est lié pour vous.
C'est fondateur, la dépression lui a fait toucher le fond, et dans ce fond, elle a trouvé ses ressources. Et ces ressources sont aussi ces capacités infinies à se dépersonnaliser dans la jouissance. Et elle s'est dit, voilà, je suis capable, je suis le rossignol, je ne vais pas m'empoisonner avec la vigne, je vais chanter à cette vigne mon chant à moi. Et elle va trouver dans son plaisir, dans ses orgasmes, une mélodie, un style, une manière de s'imposer aux amants, aux amantes et au monde. Donc c'est cette, et dans ce triomphe de la sensualité, elle découvre la place du féminin auto-érotique, du féminin maternel, du maternel masculin, de sa complexité sexuelle. Elle s'appelle hermaphrodite mentale elle-même. Elle est extrêmement
garçonne. Elle pense d'ailleurs que les femmes sont fondamentalement bisexuelles.
Alors, je ne sais pas si elle le pense si clairement, mais j'ai trouvé ça chez Freud et c'est extrêmement intéressant. Elle devance la psychanalyse par beaucoup de chemins, notamment celui-ci. Freud va écrire, mais dans les années 30, que la bisexualité psychique est plus avancée chez les femmes, plus accentuée chez les femmes que chez les hommes. Elle découvre ça, même dans les Claudines, elle se regarde dans le miroir et elle trouve qu'elle est garçonne. Et après, elle va aller rencontrer les maîtresses de Willy, mais avec sans doute un esprit de vengeance dont elle parle, et colère bien sûr, mais non sans plaisir. Et elle a écrit un livre magnifique, qui est pour moi son meilleur livre, qui devait s'appeler « Ces plaisirs qu'on nomme à la légère physique oui. », et qui est le livre devenu « Le pur et l'impur ». Et vous avez là une panoplie de personnages homosexuels, hommes et femmes, qui est extraordinaire, où elle montre les différentes facettes d'homosexualité. Elle se moque beaucoup de certaines homosexuelles femmes, elles appellent des rats équetés, peuvent pas faire pipi debout, enfin toutes sortes de choses extrêmement cruelles et vengeresses, mais en même temps, elle est, notamment par rapport à Missy, qui était sa grande amie, qu'elle a laissé tomber,
oui, qu'elle a trahi quand même,
qu'elle a trahi, qu'elle n'a pas aidé pendant qu'elle était malade vers la fin de sa vie, elle l'a pas visité, etc. Mais en même temps, elle a mis comme un point d'honneur de cueillir la jouissance de la vie, et elle a trouvé dans cette traversée un grand épanouissement dans ses amours lesbiennes, mais aussi une manière de chanter la tendresse. Le couple le plus insolite dans Le Pur et l'Impur, c'est les Dames de l'Angolaine, qui sont deux homosexuelles anglaises et qui vivent une sorte d'amour mère-fille, qui est une sorte d'idylle de tendresse et d'admiration de la part de Colette. Et elle écrit cela pour répondre, Le Pur et l'Impur, pour répondre à Sodome et Gomorre de Proust. Oui. Elle avoue dans une lettre à Jouvenel qu'elle lit Sodome et Gomorre et le cache sous le matelas, parce que Jouvenel ne veut pas tellement qu'elle se distrait avec ça, mais elle pense que Proust n'a pas tout dit sur l'homosexualité féminine, et elle va lui montrer ce qu'elle va lui montrer, elle va écrire Le Pur et l'Impur. Et donc, elle va beaucoup plus loin dans deux facettes de l'homosexualité féminine, la dépressivité qui la tendrit, qui la choque, qui la conduit à des douleurs et à des colères, et en même temps une grande capacité de plaisir et de don à soi.
Et est-ce qu'elle comprend également, selon vous, Julia Kristeva, la sexualité masculine, la jouissance masculine? Est-ce que les personnages de Colette sont pour vous aussi finement compris quand ce sont des hommes?
Je pense que c'est quelque chose qu'elle décrit avec beaucoup plus de de rigueur et de sévérité. Ils deviennent souvent des caricatures d'hommes qui abusent et je pense
comme
que
comme ses maris alors
comme, voilà comme notamment Willy Jouvenel aussi d'une certaine façon. Elle se moque facilement de ce côté obsessionnel, méticuleux de l'homme qui réussit ou des faiblesses de celui qui s'adonne à des jouissances avec des tendrons ou avec des femmes qu'il sous-estime, etc. Et donc c'est une un des premiers jets violents, donc féministe de cette façon, contre une sexualité féodale, on va dire, du côté de l'homme. Vous me posez la question, est-ce que c'est la sexualité de l'homme qu'elle a vue mieux que celui de la femme et celle de la femme, etc. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à faire du côté de la sexualité de l'homme. Ce n'est pas dire qu'aujourd'hui on va plus loin, parce que ça reste la grande énigme. J'ai pensé, c'est la psychanalyste qui parle maintenant, j'étais très impressionnée par le fait que les premières Claudines sont contemporaines de l'interprétation des rêves de Freud. Et là où Freud met sur le divan des femmes mélancoliques ou frustrées, Colette va mettre en évidence des femmes qui traversent ces situations-là et qui jouissent de leur corps et qui peuvent affronter les hommes, etc. Et de ce point de vue, on a beaucoup fait concernant la jouissance féminine depuis Simone de Beauvoir et aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'y compris en psychanalyse, la sexualité masculine reste une énigme.
Bon, on attend votre essai alors sur le sujet.
Pas seulement, mais les écrivaines et écrivains pourront nous en dire davantage.
Et le couple, la vision du couple Julia Kristeva chez Colette, parce que c'est tout de même une grande amoureuse, c'est quelqu'un qui passera d'un bras à un autre. Donc il y a tout de même ce besoin du couple. Mais quel genre de couple ?
C'est extrêmement important et je suis contente que vous touchiez ce point. Elle a toujours souhaité la vie de couple, mais c'est un couple qui est d'une grande liberté et d'une grande franchise.
Mais elle souffre quand même des infidélités, donc la liberté, ce n'est pas que du bon.
Absolument, mais elle a besoin de cet ancrage. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'époque et qu'on est plus abrité dans un exemple classique et qui reprend les repères sécuritaires de la famille parentale? Est-ce que c'est parce que c'est une ruse? On peut discuter sur tout cela, mais elle a d'une certaine manière utilisé le couple pour développer une singularité qui va contre le couple. Et dans beaucoup de ses livres, quand elle insiste sur la vie du couple, elle montre comment la femme peut s'émanciper à l'intérieur, y compris du couple. Par exemple, la forme de liberté consiste à dire au mari « je ne suis pas de ton avis ». Et vivre avec cela. Bon, je pense que ça va plus loin.
Dans quel livre, par exemple ?
Je ne sais pas dans quel livre est cette phrase-là, mais je crois que c'est dans La femme cachée, ou dans une autre qui s'appelle La chatte, il y a une vision de la femme complexe que le mari envie. Donc il y a toujours cette étrangeté des partenaires qu'elle met en évidence. Et je pense que dans notre culture française, c'est extrêmement important de donner ces exemples parce que nous avons créé avec Rousseau l'exemple du couple bourgeois comme abri de la morale. Il n'y a pas l'Église, c'est la belle Héloïse qui va créer la vie familiale et l'éducation des sexes. Et ça reste toujours l'appui de la société, les couples bourgeois. Mais nous avons aussi Sartre et Beauvoir qui ont pu donner des visions de liberté. Colette, c'est autre chose. C'est par l'imaginaire qu'elle s'émancipe et elle tient tête à l'autre. Elle ne se soumet pas.
Elle a les joues et les mains noires de Hall, le cou blanc comme lait sous ses cheveux, le sourire contraint, le rire éclatant. Et si elle ferme étroitement sur une gorge absente blouson et chandail, elle trousse jupe et culotte pour descendre à l'eau, aussi haut qu'elle peut, avec une sérénité de petit garçon. Le camarade qui l'épiait, couché sur la dune à longs poils d'herbe, berçait sur ses bras croisés son menton fendu d'une fossette. Il compte 16 ans et demi puisque Vinca atteint ses 15 ans et demi. Toute leur enfance les a unis. L'adolescence les sépare. L'an passé, déjà, ils échangeaient des répliques aigres, des horions sournois. Maintenant, le silence, à tout moment, tombe entre eux si lourdement qu'ils préfèrent une bouderie à l'effort de la conversation. Mais Philippe, subtil, né pour la chasse et la tromperie, habille de mystère son mutisme et s'arme de tout ce qui le gêne. Il ébauche des gestes désabusés, risque des...
À quoi bon ? Tu ne peux pas comprendre.
Tandis que Vinca ne sait que se taire, souffrir de ce qu'elle tait, de ce qu'elle voudrait apprendre, et se raidir contre le précoce, l'impérieux instinct de tout donner, contre la crainte que Philippe, de jour en jour changé, d'heure en heure plus fort, ne rompe la frêle amarre qui le ramène, tous les ans, de juillet en octobre, au bois touffu incliné sur la mer, au rocher chevelu de fucus noir.
Un extrait donc du Blé en herbe dans la voix de Béatrice Agenin. C'est le début du roman Julia Kristeva où les deux adolescents Vinca et Philippe s'éloignent l'un de l'autre. Philippe va bientôt vivre une expérience amoureuse avec une femme plus âgée, bien plus âgée, avant de revenir vers Vinca. Et là encore, c'est un thème que Colette aborde très librement, celui de l'amour entre un adolescent et une femme déjà un peu plus âgée. Et puis c'est aussi peut-être ce que vous disiez, qu'est-ce que c'est que le couple non bourgeois, Philippe et une femme plus âgée, couple bourgeois, Philippe et Vinca, puisque c'est comme ça que se termine le roman, par la réunion finalement, ce qui devrait être des deux personnages du même âge. Julia Kristeva.
Ce qui est très, très étonnant avec la distance, c'est... À travers sa bisexualité psychique, avec son côté hermaphrodite mental, elle maintient le couple hétérosexuel, quel qu'il soit, et avec toutes ses facettes.
Un côté traditionnel, alors ?
Non. Est-ce que c'est la tradition ? Aujourd'hui, en effet, quand on dit couple hétérosexuel, ça fait ringard, bobo ou classique, mais la révolte est dans l'homosexualité. C'est évident, c'est admis et c'est une possibilité. Elle a fait autre chose. Comment, dans la vie à deux sexes, dans l'hétérosexualité, il y a toute une palette de libertés que le couple bourgeois s'interdit ou censure tout en les vivant et qu'elle met à nu. Et c'est pour ça qu'elle fait scandale. Mais son originalité est de maintenir qu'il est possible qu'un homme et une femme vivent ensemble, mais que c'est infiniment riche et ça suppose différentes variétés. Et donc là, nous avons un exemple dans Le Blé en herbe. Il va y en avoir un autre dans Chéri, où la femme est une figure maternelle, finalement, de Léa et Chéri.
Il est presque question d'inceste aussi dans Chéri.
Tout à fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce livre dépasse, il est écrit avant qu'elle fasse sa relation incestuelle, c'est le cas de le dire, avec Bertrand de Jouvenel, qui est le fils de Goudquet, qui n'est pas son fils, mais qui pourrait...
De
Jouvenel, qu'est-ce que j'ai dit ?
De Goudquet.
Non, de Jouvenel.
Mais justement, est-ce qu'au fond, elle n'a pas été plus heureuse avec son dernier mari, Goudquet, qui était peut-être moins flamboyant, mais aussi moins homme à femme ? Est-ce que ça ne va pas un petit peu contre cette idée de la liberté dans le couple dont vous parlez ?
Mais peut-être qu'elle peut s'assagir et donner l'essentiel de son génie à l'écriture quand elle a vécu déjà toutes ces expériences. Vous savez, si vous prenez sa trajectoire, elle est le tendron de Willy, après elle devient lesbienne, ensuite elle devient femme maîtresse de jeunes gens et donc elle passe par cet amour incestuel, mais avant cela elle devient maman aussi et on ne parle pas assez de cette vision qui est aussi une expérience. Elle a écrit un très beau livre.
Mais quand on en parle, c'est pour dire qu'elle a été plutôt une mauvaise mère.
Et on dit qu'elle était mauvaise mère, on en parle parce qu'on parle de son comportement et c'est le cas. Elle était une mauvaise mère, sa fille était en pensionnat, elle ne s'est pas beaucoup occupée et le simple fait de l'appeler la petite Colette est déjà extrêmement lourd pour cette jeune femme. Il n'empêche que cette jeune femme est est devenue journaliste homosexuelle et qu'elle était parmi les premiers qui ont découvert les camps de concentration. Elle a écrit sur sa mère après avoir été en guerre avec elle pour des histoires d'héritage, mais aussi de rivalité avec Goudké, un très beau texte sur sa mère, sur les sulfures de Colette. Vous savez, ces boules où on met des fleurs et qui sont des objets décoratifs qu'on connaît beaucoup chez les antiquaires maintenant ou ailleurs, à Venise, on trouve ça. Donc, elle a écrit dans la chambre claire des textes extrêmement significatifs sur le langage des bébés, sur sa tendresse vis-à-vis de cet enfant. Il y a une sorte d'osmose là aussi avec l'autre et d'étayage maternel qui est extrêmement significatif, qui est rare à cette époque dans la littérature féminine. Maintenant, on a des femmes, Marie Darrieussecq, pour ne pas la nommer, et d'autres qui parlent beaucoup de la maternité. Mais Colette est encore une des rares à cet égard-là. Donc, il y a toute cette panoplie qu'elle a épuisée. On ne pouvait pas aller plus loin. C'est toujours possible, mais elle a donné un exemple. Et elle arrive à un âge où la rencontre avec Goudké est extrêmement porteuse, parce que c'est un homme, en effet,
sage, quand même.
Tout à son service, mais très attentif et pas obséquieux, je pense. Et je pense qu'elle a été aussi très, très séduite par sa fragilité sociale et la situation des Juifs pendant la guerre. Mmh. On lui a beaucoup reproché d'avoir fréquenté l'ambassade américaine, allemande. Le pouvoir, c'était allemand à l'époque, à Paris, mais c'était pour essayer de le sauver de la déportation. Et on peut penser que sa position à elle pendant la guerre, qui est très contestable, au lieu d'appeler à la résistance, elle essayait de publier des papiers pour dire aux Français comment mieux se nourrir. Ouais. Elle considère après que
c'est très pratique chez Colette.
Voilà.
C'est certain.
Mais néanmoins, elle était très 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 tendre et porteuse aussi vis-à-vis de Goudké.
Il y aurait encore beaucoup à dire, voilà. Julia Kristeva sur Colette. Merci beaucoup. Je rappelle que le troisième volet de votre série, Le génie féminin consacré à Colette, après les deux premiers donc sur Hannah Arendt et Mélanie Klein, est édité en folio essai après avoir d'abord paru chez Fayard. Et demain, c'est de poésie qu'il sera question. Poésie et ainsi de suite à 15h sur France Culture. Vous retrouverez Manu Farine. Et nous, la semaine prochaine, on parlera de Mario Vargas Llosa. Et puis, Julia Kristeva, votre livre « Je me voyage » paru en octobre est également disponible. Tout de suite sur France Culture, vous retrouvez Jacques Bonafé.
Bonjour, quelques pas dans la poésie de la négritude avec deux auteurs cette semaine, Léon Gontran Damas, natif de la Guyane, et Guy Tyrolien de la Guadeloupe. Ghetto. Pourquoi m'enfermerais-je dans cette image de moi qu'il voudrait pétrifier ? Pitié, je dis pitié. J'étouffe dans le ghetto de l'exotisme. Non, je ne suis pas cette idole d'ébène humant l'encens profane qu'on brûle dans les musées de l'exotisme. Je ne suis pas ce cannibale de foire roulant des prunelles d'ivoire pour le frisson des gosses. Si je pousse le cri qui me brûle la gorge, c'est que mon ventre bout de la faim de mes frères. Et si parfois je hurle ma souffrance, c'est que j'ai l'orteil pris sous la botte des autres. Le rossignol chante sur plusieurs notes, finis mes complaintes monocordes. Je ne suis pas l'acteur tout barbouillé de suie qui sanglote sa peine, bras levé vers le ciel, sous l'œil des caméras. Je ne suis pas non plus statue figée du révolté ou de la damnation. Je suis bête vivante, bête de proie, toujours prête à bondir sur la vie qui se moque des morts, à bondir sur la joie qui n'a pas de passeport, à bondir sur l'amour qui passe devant ma porte. Je dirais Beethoven sourd au milieu des tumultes, car c'est pour moi, qui peut mieux le comprendre, qu'il déchaîne ses orages. Je chanterai Rimbaud, qui voulut se faire nègre pour mieux parler aux hommes le langage des Genèses, et je louerai Matisse, Ébraque et Picasso d'avoir su retrouver sous la rigidité des formes élémentales le vieux secret des rythmes qui font chanter la vie. Oui, j'exalterai l'homme, tous les hommes. J'irai à eux, le cœur plein de chansons, les mains lourdes d'amitié, car ils sont faits à mon image. Amérique, je suis le fer figé dans les chairs de ta plaie, l'arête coincée dans le goulot de ton gosier, l'éclat d'anthracite dans la roche de tes os et nul baptême, nulle ablution ne te lavera de moi, Amérique. Les neiges florissantes et pleines de coton, c'est ma sueur féconde, c'est mon sang, ta richesse. Les sèves de douceur dans tes roseaux, aux longs cheveux d'argent, ce sont mes larmes non taries, dans la bruyance de tes machines, de tes mines, de tes usines, dans la violence des voix de cuivre, des voix de nez, des voix enrouées de ta musique. Entends l'accent de ma colère, de ma douleur et de mes hontes, Amérique. Les nuées de charbon sur tes banlieues en deuil, non, ce n'est pas la suie de ma peau souillant la lumière des hommes, c'est la cendre de mes os calcinées dans l'incendie des lynchages. L'acier de tes buildings coule dans mes muscles de bronze car je porte sur mes épaules tout le poids du nouveau monde. Je suis l'ombre de ton corps, la nourrice aux mamelles de nuit dont le lait enrichit la vigueur de ton sang. La pâleur de ton teint, tu ne peux te défaire de moi. J'ai la fureur des amants éconduits. J'implanterai mes dents dans ta chair lumineuse. Ô terre de viol, terre d'injustice et d'avenir. Je briserai ton échine, si fragile, entre Colomb et Panama. Je nouerai autour de ta taille arquée une étroite ceinture d'incandescence, de convoitise. Ma voix, celle de Césaire et de Mackay, de Robeson, de Guilaine, sera plus forte que ton orgueil, plus haute que tes gratte-ciel, car elle jaillit des sombres entrailles de la souffrance. Amérique.
Voilà, Jacques Bonafé. Et dans un instant, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Nicolas Martin pour la méthode scientifique. Très bon après-midi à toutes et à tous.